Bonjour à tous et bienvenue sur Calade, au sommaire de notre journal local et régional.
Camp Climat Beaujolais, Alternativa NV COP21 sur le thème le climat et la justice sociale. Avec nous Anne-Sophie, membre d'Alternativa et les témoignages de jeunes participants au Camp Climat Beaujolais dernièrement. Le fait du mois, un fait d'actualité débattu chaque mois à l'initiative des Amis de l'éducation populaire et animé par l'historien François Boursier. Le thème du mois, l'Europe et le monde face à une guerre qui pourrait bien durer 7 ans. Et en conclusion, l'abécédaire des dinosaures d'Anne-Léa Fabregue et Eva Pavlik, prochainement au Salon du Livre à Arnas. Calade, le journal. En mai dernier, une enquête journalistique dénonçait une pollution au perfluoré au sud de Lyon. 6 mois plus tard, les services de l'État confirment et demandent à l'industriel Arkema d'arrêter l'utilisation de ces molécules avant la fin 2024. Un article d'Émilie Rousseau pour France 3. L'émission Envoyée spéciale a révélé donc, en mai dernier, une pollution au perfluoré au niveau de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite dans le Rhône. Ce sont les questions qui agitent les pouvoirs publics, les élus, les riverains et les associations. En attendant les résultats sur l'air et sur le sol prévus pour la mi-novembre, Arkema a aussi pour obligation de faire analyser ses eaux usées. 340 kg de PFAS dans l'eau en un seul mois. Problème, une fois dans l'eau, la molécule se dégrade en d'autres composés toxiques et se retrouve dans la nappe d'accompagnement du Rhône. Les poissons, selon des résultats qui viennent d'être dévoilés par les autorités, présentent également des taux jusqu'à 110 microgrammes par kilo et qui dépassent les teneurs maximale prévue dans le futur règlement européen sur les denrées alimentaires. Autre préoccupation, la question de l'eau potable. Parce que c'est précisément dans la nappe phréatique du Rhône que l'on pompe l'eau potable d'une centaine de communes au sud de Lyon. Ces molécules, les jeunes et les moins jeunes, on les retrouve donc au robinet d'au moins 200 000 habitants, à Ternay, Communay, Chasse-sur-Rhône, Grigny et dans une vingtaine d'autres communes. Les taux dépassent même les moyennes nationales. Et en décharge, en ce qui concerne les eaux souterraines, la pollution est significative et assez hétérogène, explique la direction de l'environnement, la DRIL, Auvergne-Rhône-Alpes, tout en essayant de se montrer rassurante. 300 à 340 kg, ça paraît beaucoup, mais une fois dilué dans le Rhône, ça donne des teneurs extrêmement faibles. On parle de millionièmes de grammes, donc c'est très difficile de dire ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, ajoute Jean-Philippe Denevy, le directeur de la DRIL. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alternativa ANV COP21, week-end de formation et de rencontres, le Camp Climat Beaujolais en octobre dernier. Les organisateurs proposaient une formation aux enjeux climatiques et à la justice sociale, ces 8 et 9 octobre, dernier à Blacé. L'objectif est d'inviter chacun à participer à la mobilisation citoyenne pour relever le défi climatique. L'une des stratégies, le recours aux actions non violentes et à la désobéissance civile, comme nous l'explique Anne-Sophie, membre d'Alternativa, suivie des témoignages de jeunes participants au Camp Climat Beaujolais.
On est là dans une optique de formation et de partage pour des militants, des activistes ou des personnes intéressées sur les questions de climat et de justice sociale. Et on se forme à plein de choses, dont effectivement une formation phare un peu cet après-midi qui regroupera une quarantaine de personnes sur comment agir en désobéissance civile non violente contre des projets climaticides.
Parce que aujourd'hui la non-violence vous semble la seule parole possible.
En tout cas, ça nous semble être la stratégie pour gagner des victoires. Notre objectif à Alternativa, c'est de créer un mouvement de masse, puisqu'on pense qu'il vaut mieux agir que subir. On a vu cet été les difficultés par rapport au dérèglement climatique, au réchauffement climatique en l'occurrence pour l'été. Et on va avoir des inondations, enfin l'hiver va être tout aussi terrible. Et donc du coup, pour nous, pour qu'on soit nombreuses et nombreux à vouloir faire avancer les choses, on est plus fort à attirer des gens dans des luttes non violentes. Et un autre argument, c'est que la non-violence permet aussi de désarmer l'adversaire qui, lui, est de plus en plus violent. On voit la répression et tout ce qui se fait autour des réponses policières faites aux militants. Gagner la bataille de l'opinion publique, pour nous, ça marche aussi en opposant une posture volontairement déterminée, mais non violente.
Et donc, on a effectivement des outils et des réponses justement pour apaiser sur un terrain, par exemple, conflictuel.
Alors, c'est beaucoup en amont, c'est aussi dans l'organisation de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'on sait et on détermine tous ensemble le niveau d'engagement qu'on veut. La non-violence, ce n'est pas la non-confrontation. Donc, il peut y avoir de la confrontation, mais pas violente. Et rechercher à déstabiliser l'adversaire pour le mettre face à ses responsabilités et à l'obliger à se positionner par rapport à des personnes qui agissent de manière non violente, c'est quelque chose qu'on recherche. Et du coup, effectivement, pour faire ça, eh bien, on a un certain nombre d'outils, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de manières de parler, d'agir, que l'on développe et que l'on partage ici pendant cette formation à la non-violence.
Suivi des témoignages de jeunes participants au camp climat Beaujolais.
Alors moi, c'est parce que au niveau du militantisme, des fois je suis très solitaire là-dedans. Donc, et en plus avec le rythme des études, je peux que en parler avec mes amis, mais très peu d'occasions concrètes de me former ou de faire des actions. Et du coup, ouais, c'était une occasion en or à côté de Lyon pour découvrir les alternatives, les associations, voilà.
Les raisons, c'est que vous êtes partie prenante, effectivement, des valeurs qui sont alternatives.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on n'atterrit pas ici par hasard non plus. Il faut déjà, y a tout un chemin, je pense, d'information personnelle pour arriver à un camp climat, parce que c'est pas non plus très connu, c'est pas très très relayé à l'échelle nationale. Donc, faut déjà avoir un intérêt, je pense.
Et vous, alors ?
Moi, c'est un petit peu pour les mêmes raisons. J'ai envie de rencontrer des gens et je trouve que notre génération aussi dans une grosse remise en question par rapport à ce qu'on fait et comment on occupe nos journées avec tous les... On rencontre aussi beaucoup de défis aujourd'hui et donc oui, l'envie de se rassembler et de découvrir des gens. Et c'est vrai qu'on se sent aussi vite seul, je trouve. Et donc ça fait du bien et c'est...
De retrouver des gens qui sont dans la même lignée. Exactement. Que vous-même et dans les mêmes valeurs et les mêmes idées. Et vous êtes prêts à l'engagement, vous êtes jeunes, vous allez me dire tous les deux, bah oui, bien sûr, nous, on est prêts à tout, nous. Mais très, voilà, vous êtes prêts vraiment à l'engagement en sachant que malheureusement, quelquefois, il y a des risques.
Oui, carrément. De mon côté, j'ai quitté un travail cet été. Et c'est vrai que avec une grosse remise en question aussi sur l'envie d'agir. Et donc aujourd'hui, je sens que j'ai vachement un sens de l'engagement. Surtout au niveau climatique, parce que ça devient, enfin, c'est pratiquement existentiel, je trouve. Et donc, oui, l'envie de retrouver une activité qui a du sens et qui contribue au bien de tous, quoi.
Et vous-même, alors, sur l'engagement, effectivement, prêt à tout ?
Ouais. Oui, oui, si, y a quand même une balance.
Il n'y a pas d'autres raisons ? Vous sentez que le discours ne passe pas ou pas suffisamment et il n'y a pas d'autres façons ?
Enfin, je ne sais pas, je rejoins le côté existentiel, en fait, que le discours passe ou pas. Au bout d'un moment, je crois que c'est un cas de conscience personnel. Libre à moi de croire que ça va fonctionner, alors qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grandes transformations structurelles à l'échelle d'un pays entier. Mais bon, ouais, c'est pour aussi le bien-être personnel, c'est beaucoup de ça.
La mobilisation citoyenne, incontournable pour relever le défi climatique et répondre à l'urgence, mais aussi à la justice sociale, pour les mouvements Alternativa et ANV COP21, action non violente. Le fait du mois, un fait d'actualité sociale, économique ou politique française ou internationale, débattu chaque mois et animé par l'historien François Boursier à l'accueil Cantalade à Villefranche-sur-Saône. Cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire. Le thème du fait du mois était l'Europe et le monde face à une guerre qui pourrait bien durer 7 ans. François Boursier.
Ah oui, ça, c'est sûr que alors, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, mais nous sommes en train de découvrir l'extrême dépendance qui était la nôtre vis-à-vis de la Russie en matière de gaz, en matière de pétrole et même pour certains d'électricité. Et donc c'est vrai que ça nous a fragilisés. En même temps, on a montré une certaine capacité à faire face collectivement. Actuellement, on réfléchit au sein de l'Union européenne à des achats collectifs, et non seulement des achats collectifs de gaz, mais à une politique de gestion tarifaire de ces fournitures de gaz et de pétrole. L'avenir nous dira si ça fonctionne. C'est bien parti pour.
Mais également sur la question de la défense.
Alors sur la question de la défense, on disait donc une guerre qui va durer 7 ans. C'est une image, hein. C'est Georges Niva qui l'utilise dans la Revue des Deux Mondes. Georges Niva est un spécialiste de la Russie. C'est une manière de dire que c'est une guerre qui risque de durer très longtemps, même si aujourd'hui l'armée ukrainienne marque des points de manière considérable. C'est vrai que la première leçon que l'on peut tirer de cette première phase de la guerre, en dehors du fait que la Russie est en échec, c'est que les Européens ont su répondre avec solidarité pour aider les Ukrainiens, mais on a le sentiment que les États-Unis d'Amérique en ont fait plus. Et les États-Unis en ayant fait plus, cette guerre signifie peut-être le retour des États-Unis en Europe, voire l'hypothèse d'une reprise en main, j'allais dire, des affaires européennes qui étaient l'affaire des Européens. On le voit notamment sur la question des achats d'armement. Il y a eu à la fin du mois dernier une réunion importante à Bruxelles de tous les acheteurs d'armement des pays de l'Union européenne, de l'OTAN, pour essayer de mieux coopérer, d'être moins en concurrence. On sait que les Allemands qui ont injecté 100 milliards d'euros pour moderniser leur armée ont acheté du matériel américain. Et donc il y a des tensions, il y a des concurrences entre pays européens. Et en même temps, on a manifesté, à la grande surprise des Russes d'ailleurs, une très ferme volonté d'unité face aux défis que représentait cette guerre.
Est-ce que le conflit percute la relance de la construction européenne qui allait commencer ?
Oui, ça percute la relance de la construction européenne. Alors, ça la percute. D'une certaine manière, ça la renforce parce que les pays européens ont compris qu'il y avait une menace militaire importante du côté de la Russie et qu'il fallait donc écouter davantage les Polonais, les pays baltes, les pays d'Europe centrale et orientale qui ont une certaine expérience de la Russie et qui nous alertaient sur la dangerosité que représentait ce pays. Et donc, du coup, ça a un effet positif d'une certaine manière, mais en même temps, ça nous fait toucher du doigt tout ce qu'il y a encore à faire pour qu'il y ait vraiment une autonomie stratégique de l'Union européenne, comme le sollicitait ou le demandait le chef de l'État en France il y a quelque temps.
Prochain rendez-vous du Fait du mois à l'accueil Cantalade, boulevard Gambetta à Villefranche-sur-Saône, le 10 novembre prochain, à 18h30. Et pour conclure cette édition, l'abécédaire des dinosaures d'Anne-Léa Fabrec et Eva Pavlik. Sorti en librairie en octobre dernier, retrouvez les deux auteurs de cet album pour enfants paru aux éditions du Poutan au Salon du Livre à Arnas les 19 et 20 novembre prochains. Avec nous Anne-Léa Fabrec, auteure. Elle est jointe par téléphone.
On a vraiment créé le projet ensemble depuis le début parce que déjà, un détail, c'est qu'il a fallu choisir 26 dinosaures, 26 noms qui correspondent aux lettres de l'alphabet et qu'il y en a plus de 1000 en fait déjà, et même plus parce qu'on en découvre tous les jours. On a fait notre choix en choisissant soit des noms rigolos ou des noms qui sont imprononçables mais qui ça peut être drôle pour les enfants ou en regardant à quoi ils ressemblaient, ça donnait une idée à Eva de comment elle allait pouvoir les dessiner. Et puis après, chaque fois qu'elle en finissait un, je faisais des recherches moi pour mon texte. Des fois, ça collait pas, on est revenu en arrière. Enfin, voilà.
Ces petits personnages tout d'abord, et ensuite son caractère, sa façon d'être.
Voilà, c'est ça. Ben, on s'adresse à des enfants tout petits, donc on s'adresse à eux, en fait, on leur parle. Et puis, il fallait rester dans le côté éducatif, puisque c'est un abécédaire, donc leur apprendre quelque chose. Donc vraiment, même si les textes sont pas très longs, ils racontent quelque chose de réel, de vrai. Enfin, on s'est vraiment documenté. On raconte pas des choses imaginaires. Et puis on leur donne un petit peu des petites informations sur la vie des dinosaures, sur ce qu'ils mangent, sur leur caractère. Tout en essayant d'être drôle aussi.
Alors le choix du dinosaure, il est judicieux parce que c'est vrai que les enfants adorent les dinosaures.
On va dire surtout les petits garçons, mais bon...
Oui, c'est vrai, les petits garçons.
Il y a des petites filles aussi, hein, faut pas être...
Quoi dire par exemple sur un des dinosaures que vous avez peut-être une préférence? Vous les aimez tous bien évidemment, mais sur un petit dinosaure que vous avez une préférence?
On a des préférences, mais je dirais c'est pas par rapport à leur caractère, mais c'est par rapport au dessin d'Eva. Donc moi, mon préféré, c'est le Diplodocus. Parce qu'il est très très grand. Elle l'a dessiné avec une expression tellement tendre. Il a un petit regard tout gentil. Et puis il a un petit ventre tout rond. Vraiment, on a envie de le prendre dans ses bras.
L'abécédaire des dinosaures d'Anne-Léa Fabrec, auteur, et Eva Pavlik, illustratrice. Album pour enfants paru aux éditions du Boutan. Les prochains rendez-vous de dédicaces au Salon du Livre Arnas les 19 et 20 novembre et à la librairie de Velay à Villefranche le 7 décembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.